Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous sommes donc le quatrième jeudi du mois et c'est une nouvelle équipe qui prend l'antenne ce soir à partir de dorénavant. C'est donc désormais Culture Poub, aka Jeanne et Tanguy, qui vous retrouveront à cette heure-là tous les quatrièmes jeudis du mois sur 106.3. Pour parler écologie, ou plus précisément lutte écologique, leur actualité et surtout leur intersectionnalité. On entend se questionner sur les stratégies militantes, autant sur leurs fins que sur leurs moyens, et surtout sur leur ancrage ou parfois leur manque d'ancrage dans le reste de la société, sur leurs liens ou parfois leur manque de liens avec les autres luttes. Et donc pour cette émission, je vous propose en un premier temps donc, de faire le point sur l'actu des luttes, sur les actions du mois écoulé, avec des infos, des reportages, des témoignages, puis accueillir notre invité pour l'interview à l'intersection, donc une discussion qui aura lieu chaque mois, une discussion en live avec des activistes qui nous font connaître leur engagement et qui nous permettent de concevoir la lutte écologique de façon concrète, dans ses croisements avec les luttes sociales et politiques, et notamment avec les différentes formes de domination, domination de genre, domination raciale, domination de classe, etc. La liste, évidemment, n'est pas fermée. Aujourd'hui, nous accueillerons donc Fatima Wassak, du syndicat de parents d'élèves Front de Mer, qui a également fondé le réseau Classe Genre Race, pour discuter tout à l'heure des luttes antiracistes et féministes et de la voix des quartiers populaires dans les luttes écologiques et plus généralement dans les luttes anticapitalistes. Bonsoir Fatima.
Bonsoir.
Et bienvenue.
Merci.
Et nous sommes également en compagnie de Clément pour toute cette soirée.
Oui, bonsoir pour ceux qui m'ont écouté précédemment. Donc, j'ai fait quelques années à la bande à Bébert. Et là, on passe le relais ce soir avec plaisir.
Merci pour ce relais. Il est 20h30, vous êtes dans Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel. C'est parti donc pour Culture Poub, l'émission de la pollution mentale et environnementale. Et puisque ce soir, on va parler végétarisme d'ici peu, je vous propose une petite entrée en matière avec une petite chanson de Boris Vian, une chanson sur les abattoirs de la Villette.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme ac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, camp ici c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Boris Vian, les joyeux bouchers sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous écoutez l'émission Zoom Écologie présentée par Culture Poub, le magazine de la pollution mentale et environnementale. Nous sommes en juin 2019 et ce mois-ci, quelle lutte contre ces pollutions? Point d'interrogation. Pour commencer, je propose un petit retour sur Yes We Can, CAN, C-A-N-E-S, une action organisée par Extinction Rebellion qui s'est tenue du 17 au 21 juillet à Cannes, donc, alors que se déroulait le Cannes Lyon Award Festival, Award Show, un festival de la publicité, où chaque année donc, des pros du secteur viennent se décerner des prix, des Oscars de la publicité sur le modèle donc, du festival de Cannes pour le cinéma. pour dénoncer l'irresponsabilité de ce secteur, hein, qui en appelle à toujours plus consommer via des supports toujours plus énergivores, hein, comme les écrans publicitaires. Les membres d'Extinction Rebellion France et Angleterre ont manifesté et ont occupé les marches du palais où se tenait le festival. Cette action surprise a attiré principalement l'œil des médias locaux ou des automédias et surtout de la police, puisque de très nombreuses actions de recouvrement ont été bloquées et que Extinction Rebellion annonce avoir subi 18 interpellations et annonce que les militants ont été suivis, ont été fouillés, ont subi des contrôles d'identité très régulièrement, hein, de sorte qu'ils n'ont pas pu mener à bien toutes leurs actions. Donc, une forte répression sur ce mouvement, sur cette action Yes We Can. Une répression qui s'observe aussi, donc toujours dans le mouvement anti-pub, cette répression s'observe aussi sur le plan judiciaire, hein, puisque les déboulonneurs, ce groupe d'activistes qui a été mis en procès pour un barbouillage d'écran publicitaire dans une gare SNCF, eh bien, les déboulonneurs ont été condamnés, hein, et malgré leur appel, la condamnation a été maintenue, donc condamnés pour barbouillage. Et enfin, toujours dans le même secteur, si on peut dire, les afficheurs solidaires, qui avaient remplacé des pubs par des appels à la solidarité envers les exilés, ces afficheurs solidaires ont été condamnés, donc le 14 juin dernier, à verser 1773,35 centimes d'euros à la société JC Déco, donc le principal afficheur parisien. Pourquoi ce chiffre, ce montant, je l'ignore. En tout cas, il et elle ont besoin de soutien et la lutte continue. Donc je vous invite notamment à jeter un coup d'œil à la pétition mise en ligne par RAP, Résistance à l'agression publicitaire, contre ces écrans, contre la multiplication des écrans à la RATP. Pour rappel, ces écrans très énergivores, qui nous appellent à surconsommer, devraient passer de 1% du parc publicitaire de la RATP à 30%. Donc l'association RAP lance une pétition en ligne, vous tapez dans votre moteur de recherche « écran publicitaire dans le métro, trop c'est trop » et vous la faites tourner. Merci. Une autre lutte écolo qui subit la répression en ce moment, c'est celle des décrocheurs de portraits, à savoir donc ces activistes de l'action « Décrochons Macron » qui a été lancée en février par ANV COP21. Donc le but de l'action est de décrocher symboliquement 125 des portraits présidentiels accrochés dans les mairies, afin de dénoncer l'inaction climatique de la France, et puis ensuite de les exposer lors du G7, qui se tiendra fin août en France, justement, à Biarritz. Donc, 125, pourquoi ? C'est le nombre de jours qu'il faut à la France pour atteindre son jour du dépassement, le nombre de jours au-delà duquel elle vit à crédit des ressources de la planète, et plus concrètement, elle pille les ressources du reste du monde. Donc pour l'instant, il y a plus de 80 portraits qui ont été décrochés, notamment 3-4 aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui, il y avait un procès. Enfin, il y avait un procès hier, aujourd'hui aussi, mais il a été reporté. Donc pour l'instant, on en est à plus de 80, hein. On approche quand même assez vite du compte. Et pour illustrer donc cette action, je vous propose d'écouter les militants et les militantes nous en parler avec un petit reportage signé Tanguy.
Aujourd'hui, on a organisé une action de décrochage de portraits de Macron à la mairie du 14e pour symboliser le vide de l'action climatique du gouvernement.
J'ai fait deux décrochages, j'ai participé à deux décrochages en tant que photographe et ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas vu les forces de l'ordre sur les deux décrochages. Par contre, c'est une action qui est très rapide, qui peut durer 10 minutes, voire moins. Et dès qu'on a fini, on part pour éviter les interpellations sur place. Voilà. Ouais.
On entre, on ressort et c'est fait. Pour laisser un mur vide comme son programme en matière d'écologie. Mais là, en l'occurrence, je crois qu'ils s'en sont même pas rendus compte.
D'accord.
Donc, ils s'en rendront compte sûrement dans les prochains jours. Mais nous, en tout cas, on est contents d'en avoir un de plus parce que ça nous rapproche de l'objectif qui est d'en décrocher 125, je crois, d'ici le G7, qui est fin août. 125, là aussi c'est un nombre symbolique qui représente les 125 jours qu'il nous a fallu pour arriver à notre journée française du dépassement où notre consommation a été telle que en 125 jours on a utilisé assez de matières premières pour toute une année, c'est ça que la Terre peut régénérer en une année.
Et aujourd'hui le premier procès des décrocheurs de portraits. Ils sont 6 à être en procès aujourd'hui à Bourg-en-Bresse. Donc on essaie de décrocher le plus de portraits aujourd'hui pour les soutenir.
Au fur et à mesure, on rencontre des gens et on a envie de s'impliquer de plus en plus parce que, bon, voilà, faire pipi sur la douche, ça va 5 minutes, mais on a envie que les choses avancent un peu plus vite, quoi. Et donc c'est bien de modifier sa consommation, de changer de banque, de changer de fournisseur d'électricité, etc. Mais si on a le temps, quand on habite en ville, il y a beaucoup d'actions. C'est toujours agréable aussi face à l'urgence et face à la somme des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, de pouvoir parler à d'autres gens qui ont les mêmes convictions ou les mêmes connaissances de cet état climatique pour positiver aussi et aller vers du mieux, vers des actions utiles.
Rendez-vous sur le site d'ANV COP21 pour prendre contact avec quelqu'un de l'asso qui pourra t'aiguiller vers une formation à l'action non violente pour te former, pour apprendre et pour ensuite aller en action. Aujourd'hui, on a 10 ans pour faire machine arrière et pour essayer de stabiliser l'emballement.
Merci donc pour ce témoignage de décrocheurs, décrocheuses. Le jour du premier procès des décrocheurs de portraits, hein, et c'est le premier d'une longue liste, hein, puisqu'il y a encore 10 procès de décrocheurs de portraits. Des procès, hein, qui se multiplient pour un portrait qui coûte à peu près 8 euros. Hein, mais à mon avis, cette action est plutôt perçue comme un outrage présidentiel. Hein. On compte aujourd'hui 50 perquisitions, 36 prévenus, 10 procès. Dont un avait lieu hier, mais qui a donné lieu à une relaxe générale. Notons cependant que les militants ont été jugés dans la chambre numéro 16, qui juge les affaires terroristes. Une réaction peut-être à ce sujet, à nos invités ?
Oui, alors concernant cette répression des militants écologistes, déjà dire qu'elle n'est pas nouvelle, en fait on a tendance à croire que cette répression est inédite, alors qu'on sait très bien que voilà, elle s'est particulièrement accélérée au moment de la COP21. On se souvient que Rémi Fraisse, militant écologiste, a été tué à Sivens il y a quelques années. Et puis voilà, les militants écologistes ont régulièrement été réprimés, voilà, notamment dans les années 70, dans toute la lutte anti-nucléaire, etc. En fait, je voulais intervenir parce que on ne dit pas assez à quel point la répression de l'État Macron, à quel point elle est vicieuse. Parce qu'on ne réprime pas des militants politiques. On ne les reconnaît pas comme militants politiques. Tout à l'heure, tu disais, alors ils ont été condamnés pour outrage, pour trouble à l'ordre public, pour des choses qui ne sont pas politiques. Et c'est tout le vice, c'est-à-dire qu'on ne les reconnaît pas comme des militants politiques pour éviter le débat politique que pourraient susciter ces procès. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce sont des procès politiques. On considère que ce sont des procès, qui
pour dégradation,
voilà, des
pour
délits
vol,
mineurs, etc.
Exactement.
Ce sont des délinquants, en fait. Ce sont des délinquants qui volent, qui pillent, qui cassent, etc. Mais on ne les reconnaît pas comme militants politiques, d'où l'intérêt pour nous, militants, de politiser ces procès, de dire qu'il s'agit de réprimer politique, qu'il s'agit de condamner politique, qu'il s'agit de prisonniers politiques. Enfin, je pense que c'est important dans notre rhétorique de les dire comme ça. Et puis alors voilà, ensuite il y a ce que tu disais tout à l'heure sur la chambre qui juge ces militants pour antiterrorisme. Enfin, en tout cas, c'est la chambre qui est dédiée à l'antiterrorisme. Bon, voilà, là pour le coup, c'est politique, mais c'est du politique diabolisé, quoi.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Que voilà, qui ne n'invite pas au débat public, au débat politique. Voilà.
Tout à fait. Donc,
ça prouve que le terrorisme est en baisse, alors, parce qu'ils savent plus quoi mettre dans la chambre antiterroriste.
C'est donc rassurant.
Voilà. Ma réaction aussi, c'était effectivement... je ne sais pas si c'est une volonté de chercher un procès, mais on peut se dire que du coup, ça médiatise quand même l'affaire. Alors, je ne sais pas quels sont les chefs d'inculpation, mais du coup, ils doivent être quand même relativement mineurs. Même si après, l'État va toujours chercher des trucs grandiloquents. Mais bon, c'est vrai que les faits sont quand même très très mineurs et c'est plus symbolique. C'est un peu comme les déboulonneurs qui vont aller barbouiller une pub, bon, sauf que là il y a une dimension politique un peu différente. C'est contre le système publicitaire et pas contre une personne. Mais bon, pareil, les déboulonneurs ils cherchent un procès, ils le revendiquent, revendiquent leur action en présentant leur carte d'identité. Donc,
c'est le cas à ANV COP21, dont le consensus d'action est vraiment en avance non masqué. On revendique, ils font énormément d'automédias là-dessus. Sur le site, il y a une page Décrochons Macron où ils expliquent tout ça très très précisément. Et d'autant plus que parmi les personnes en procès, il y a des spécialistes de l'automédia, notamment Vierza, qui a une chaîne, qui est un youtubeur assez connu, et beaucoup de militants de grandes assos, de grandes orgas, donc qui en fait font de ce procès une cause politique, et donc espèrent, j'imagine, retourner un petit peu le sujet.
En tout cas, il y a une sociologue que j'aimerais citer là-dessus, qui s'appelle Vanessa Codaccioni, et qui a travaillé et sur l'histoire de la répression politique de l'État français, et sur la dépolitisation des procès des militants politiques. Et comment on passe ça en de simples délits, de délinquants, quoi. Voilà, Vanessa Codaccioni.
Et oui, j'ai entendu ça même... un peu le même thème, hein, cette perte de l'autodéfense juridique. C'est-à-dire que autrefois il y avait comme un point d'honneur, hein, à se faire sa propre défense en son procès, et c'était quelque part un peu un passage obligé pour un militant, alors que là ça reste quand même relativement rare, ou en tout cas il y a plutôt un discours de groupe, et tant mieux, hein, parce qu'évidemment la défense collective est nécessaire dans ces moments-là. Donc... Ces décrocheurs et décrocheuses ont besoin de soutien, hein, d'autant plus qu'il reste quand même 40 portraits à décrocher d'ici au G7, qui se tiendra donc du 24 au 26 août à Biarritz, et qui sera l'occasion de se mobiliser également, hein, à l'appel d'attaque et de G7EZ, un collectif basque. Un compte sommet va se tenir du 19 au 26 avec le clan climat toute la semaine et des manifestations tout le week-end pour faire entendre donc les voix anticapitalistes, écologistes et anti-impérialistes pendant donc ce G7. Donc rendez-vous sur la côte basque cette semaine-là, on vous en dira plus évidemment le mois prochain à mesure que la mobilisation se structure. Plus urgent comme mobilisation, c'est non à Europa City. Les travaux ont commencé hier, hein, on a observé hier un large sillon dans les terres agricoles. Donc début des travaux pour installer cette fameuse gare et surtout ce fameux centre commercial démesuré sur les terres fertiles du triangle de Gonesse, dernière terre agricole du nord du Grand Paris. Donc blocage des travaux à l'appel du collectif non Europa City pour défendre cet espace contre le centre commercial et son monde. Et son monde, hein, c'est aussi évidemment toutes les infrastructures qui entourent les aéroports de Paris, hein, dont la privatisation, si elle a lieu, promet des extensions encore de ces infrastructures, et avec elle donc un impact en CO2 augmenté dans toute la région. Là aussi, hein, une pétition est en ligne, vous l'avez sûrement vu passer, pour empêcher cette privatisation climaticide et discriminante, hein, puisque cette zone est déjà largement appauvrie, enlaidie et empoisonnée, hein, par cette logistique aéroportuaire. Donc, non à Europa City, blocage des travaux et manifestation donc ce dimanche 30 juin au triangle de Gonesse. Et enfin, donc, si on va passer au prochain point d'actualité, c'est donc N2 Gueland 2, dont je voudrais faire un petit récit. Une autre action d'envergure contre des infrastructures industrielles polluantes et à la gestion non démocratique, qui a eu lieu donc, en Allemagne la semaine dernière, à côté de Cologne. N2 Gueland 2, donc c'est de l'allemand, hein, ça veut dire pas plus loin ou on arrête là. Et c'est donc le nom d'un collectif qui organise depuis 2015 des actions de masse contre l'industrie charbonnière en Rhénanie, donc dans l'ouest de l'Allemagne. En effet, donc la Rhénanie possède un sous-sol très riche en lignite, qui est le type de charbon le moins cher à extraire et le plus polluant à brûler. Donc, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, donc, l'entreprise RWE y a installé 3 mines à ciel ouvert et 5 centrales à charbon qui brûlent 24 sur 24 et 7 jours sur 7 ce lignite extrait des mines pour en tirer donc, l'électricité de l'Allemagne. Donc, résultat, la forêt de Hambach, c'est-à-dire la plus vieille forêt d'Europe, qui était la plus vieille forêt d'Europe, une zone humide abritant des espèces rares d'oiseaux, d'insectes ou de chauves-souris, eh bien, elle a perdu 90% de sa surface. Et depuis 1961, l'État déplace des populations locales, l'État vide les villages de leurs habitants et habitantes, et surtout vend ces territoires à l'entreprise RWE, qui les rase, qui rase les villages, et qui creuse donc ces mines à la place. Donc aujourd'hui, cette région, c'est 9000 hectares d'infrastructures, c'est la zone la plus émettrice de CO2 de toute l'Europe, avec 4 millions de tonnes de charbon extraites par an. Donc de la forêt la plus vieille d'Europe, on est passé à la zone la plus polluante d'Europe. C'est ça, donc l'industrie charbonnière de la Rhénanie. Donc c'est assez énorme, mais RWE ne s'arrête pas là, puisqu'un projet d'agrandissement de la mine menace de nouveaux villages et menace surtout, enfin pas surtout, menace autant, les 70 hectares de forêt restants. Donc c'est 10% hein, qui avaient été jusque-là épargnés. Et donc depuis 2012, des zadistes se sont installés dans cette forêt, hein, construisant leurs cabanes dans les arbres, directement dans les arbres, pour protéger ces arbres et puis pour rendre les tentatives d'évacuation de la police plus difficiles. Des tentatives qui se sont multipliées et qui ont déjà occasionné donc un mort. À côté de cette ZAD, le collectif N2-Gueland2, dont je vous parlais, a été créé pour dénoncer par l'action de masse les incohérences des gouvernements allemands qui prétendent sortir du nucléaire en développant encore davantage le lignite, retardant la sortie du charbon à 2038, donc une échéance à près de 20 ans, hein, qui est largement critiquée par les associations environnementales allemandes. Donc pour la quatrième année consécutive, N2-Gueland2 a réuni des militants et des militantes de différents pays, principalement européens, pour une action de masse sur le site. Donc c'est environ 7000 activistes hein, répartis en 6 groupes qui sont partis entre vendredi et dimanche dans des actions dont seuls quelques-uns connaissaient la cible, le but étant de former un cortège manifestant sur un parcours déclaré pour ensuite, à un moment indéterminé, déborder ce cadre, forcer les barrages de police et bloquer des points stratégiques de l'activité charbonnière. Donc, entre le vendredi 21 et le dimanche 23, les rails qui relient la mine à la centrale ont été bloqués et la mine de Garzweiler, donc une de ces mines, a été occupée en 2 points, en marge de plusieurs manifestations où l'on pouvait croiser des zadistes, des parlementaires allemands ou encore des collectifs comme Youth for Future. Pour ma part, après une journée dans une manifestation à être bloquée, nassée et violentée par la police, j'ai pu rejoindre les deuxième et troisième jours le groupe qui a occupé la mine de Garzweiler. Je vous en propose donc un petit reportage immersif qui sera aussi l'occasion de notre deuxième pause musicale. C'est parti, ça se passait donc samedi 22 juin en Rhénanie, dans la mine de Garzweiler.
Alors moi je m'appelle Anna, j'ai 17 ans et je vis en Bavière.
Je m'appelle Rocío, je suis espagnole.
Bonjour, je m'appelle Pierre-Paul et je suis de Pays-Bas.
Je m'appelle Noah et je suis d'Allemagne.
Et moi c'est Paul et je suis breton.
Hello, my name is Val. Je viens de Portugal ici et maintenant nous sommes ici dans la mine. Et beaucoup de police, mais nous sommes beaucoup de gens et on va faire les choses qu'on doit faire.
Je m'appelle Lorenz et je suis allemand.
Bonjour, moi je m'appelle Thaï, je viens de Bruxelles, Belgique.
Je m'appelle Noémie et je suis de Hongrie et je suis très enchantée d'être ici. C'est magnifique, alors on marche, on change la situation de la planète.
Je m'appelle Buena et je viens de Namur en Belgique et ici on est en plein soleil et on a très chaud.
Je pense qu'on peut décrire, on est dans le caleçon du monde quoi, après une grosse une chiasse bleue. Dans le sens où c'est à peu près noir et marron. Partout à perte de vue, c'est très creux, en fait c'est un cratère quoi.
Tu crois un peu sur la lune?
Ouais, ouais.
Avec beaucoup de flics quoi.
Du flic, de la flicaille en cordon, derrière assis sur des... Alors un peu, c'est difficile de discerner les véhicules de la compagnie, de ceux des flics. Il y a des flics sur les pick-up de la compagnie minière.
À ton avis, il y a combien de militants là?
1000. Bon, on a des options. Les options, c'est rester. Les options, c'est filer vers l'excavatrice ou en étant le plus stratégique possible, c'est-à-dire... En l'occurrence, c'est un peu tard. On n'a plus tellement de stratégie possible, je pense.
À ton avis, il y a des gens qui veulent partir, là?
Pas tellement. Mais on manque d'eau, clairement. Non, là, la plupart des gens veulent rester. Dans la mesure où ce qui marche, c'est d'être autant, et que si on est autant, c'est parce que n'importe qui peut venir en étant à peu près sûr de ne pas se retrouver abandonné par tout un tas de gens qui courent à toute berzingue en étant le plus devant possible et tout ça. J'imagine que si je menais la responsabilité de cette colonne d'un millier de personnes, je trouverais ça efficace de dire que arrivé à ce point-là, chacun l'a décidé et l'a voulu et on n'a pas suivi. Personne peut dire qu'il a juste suivi. Quoi. Tout le monde est là du fait de réunions constantes. Ça, c'est assez énorme. Mais efficace, non, c'est clairement pas le mot. Là, en l'occurrence, c'est pour des pourparlers qu'on est bloqué.
Mais... on est bloqué, on est nassé, mais enfin, on est quand même arrivé dans la mine, au plus près de l'excavatrice. Finalement, on peut considérer qu'on a réussi à savoir débloquer en occupant.
Ouais, moi je trouve que, sachant que la mine était bloquée, ne fonctionnait pas avant qu'on arrive, on ne peut pas dire qu'on l'a bloquée aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils savaient qu'on risquait de venir qu'ils l'ont bloquée. Donc on actualise un peu leur crainte d'un débarquement de militants. Ouais. On a braqué pas mal de caméras sur cet endroit atroce, quoi, donc c'est ça qu'on a réussi.
No nation! No.
Right now we are in the biggest mining pit in whole Europe, and the company RWE is blocking us with the help of the police, and I'm quite happy because we blocked the whole coal mining for this day.
Retour dans Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Culture Poub au micro et on vient d'écouter un reportage immersif à la mine de Garzweiler pendant l'occupation d'N2 Gueland 2. Dans ce reportage, vous pouviez entendre les militants, leurs slogans, l'hélicoptère de la police, les cris des activistes qui se font expulser un à un en pratiquant la technique du poids mort pour ralentir l'évacuation, parce qu'effectivement 1300 personnes à évacuer d'une mine, ça a duré au moins 24 heures et on a pu y passer la nuit. Dans ce reportage, on entend aussi de la musique, puisqu'un camion d'N2 Gueland 2 est venu nous diffuser avec des haut-parleurs des informations et du son pendant le blocage, de sorte que l'occupation, pendant une bonne partie de la nuit, s'est transformée en fête démesurée, avec musique et projection de messages lumineux sur les falaises de la mine. Et quand je dis démesurée, je pèse mes mots, car pour être très honnête, cette ambiance m'a souvent gênée. Certes, toute grève est une fête et la musique n'a pas manqué de remotiver des activistes épuisés par la chaleur, la marche, l'occupation au soleil. Mais par bien des aspects, ce mouvement ressemblait pour beaucoup à un festival, avec une forte volonté, j'ai trouvé, de divertir et de congratuler sans cesse les activistes, que ce soit pendant l'action ou sur le campement lui-même. Tout au long du week-end, j'ai entendu des activistes s'enthousiasmer d'avoir vécu une expérience unique, de s'être cru dans un film d'action, dans Star Wars, d'avoir dépassé leurs limites individuelles. Bref, j'ai cru les voir entretenir un rapport à l'action relativement esthétique et individuel, et cela résonnait pour moi avec l'homogénéité sociale de ces activistes, des jeunes militants, plutôt habitués au militantisme, en grande majorité blancs, partageant une culture commune du camp climat, mais aussi du festival, avec certes sa bouffe végane, sa crèche autogérée, ses médics et son prix libre, mais aussi ses cours de yoga, de soutien émotionnel, ses slogans repris sur de la house, ou ses bannières « We are heroes », nous sommes des héros. Ce camp témoignait de la convergence de beaucoup de luttes, végétarisme, animaliste, beaucoup de tri des déchets, beaucoup d'initiatives féministes, mais aussi j'ai parfois trouvé d'une certaine culture militante pas très éloignée de la société de consommation dont l'anticapitalisme se doit de faire la critique. L'action militante risque-t-elle de devenir le prochain divertissement estival de masse d'une jeunesse privilégiée ? Vient-on en action pour agrémenter ses vacances d'un peu d'excitation, d'anticonformisme et de performance ? Le blocage sera-t-il au camp climat, ce que la défonce est au festival, à savoir une de ces expériences uniques, excitantes, voire effrayantes, qui pimentent un petit peu les vacances ? J'exagère, bien sûr, et j'exagère à dessein. N2 Gueland 2 a atteint son objectif, un objectif rigoureux, risqué, et qui n'aurait pu être atteint sans mobiliser et donc héberger une masse de plus de 7000 activistes. Mais si j'exagère, c'est que cette tendance à survaloriser la culture militante, y compris lorsqu'elle est une culture consumériste, voire d'élite, pointe de plus en plus dans l'écologie mainstream en ce moment. À mesure que l'écologie devient un sujet incontournable dans l'espace public, on voit fleurir des initiatives qui tendent à la réduire, à réduire l'action à un loisir et à réduire l'écologie elle-même à une mode, une tendance. Je voudrais en prendre juste un exemple pour illustrer mon propos. Cette interview de Lionel Bensemoun, l'ex-propriétaire de clubs ultra-chic comme Le Baron, à Paris, qui depuis quelques années se propose, je cite, de dépoussiérer les mouvements écologistes, qui se plaint de voir des gens, je cite, d'un certain âge dans les marches pour le climat, et pas assez de gens, je cite, comme lui. Donc je cite une interview qu'il a donnée à Elle, en avril dernier, magazine Elle, et où il est présenté comme, je cite, un branché chez les écolos qui va faire changer le cool de camp en rendant démodés les gens qui surconsomment. Pour cela, il ouvre des lieux, comme le consulat ou la base, qui croisent teuf, activités de loisirs, réunions associatives. La question que je voulais poser est simplement, l'écologie pourra-t-elle survivre à sa mise à la mode ? Est-ce un loisir à consommer, permettant d'avoir un style, de créer une nouvelle sous-culture et un certain entre-soi ? Cette approche est typique de la société de consommation. C'est pourquoi, sans vouloir les identifier à ces propos aberrants, que je viens de citer dans Elle, sans vouloir les identifier à ces propos, je souhaitais simplement exprimer un certain malaise et peut-être une mise en garde au mouvement de masse pour le climat, tel que j'ai pu les observer donc, le week-end dernier. Car les camps climat vont être très nombreux cet été. Attention à ne pas devenir le prochain divertissement estival de masse pour des jeunes cools à la recherche, pour quelques années, d'une nouvelle identité. Les camps climat, faisons-en des espaces d'autonomie, irrécupérables par l'industrie du cool, l'espace de diversité, en affrontant la conflictualité dans nos luttes, au lieu de nous auto-congratuler pour notre héroïsme à la sauce hollywoodienne. Ces camps climat, ils vont être nombreux, j'en cite juste quelques-uns au mois de juillet, République tchèque, en Suisse, en Pologne, au Portugal, en Angleterre, tous contre les énergies fossiles, donc des événements assez importants. Vous pouvez trouver toutes les infos rassemblées sous le nom de Summer of Climate Disobedience 2019. Voilà donc pour le mag du mois de juin. Et si il n'y a pas de réaction ou de questions, je vous propose de passer tout de suite à l'interview à l'intersection, en compagnie donc de Fatima Wassak du syndicat de parents d'élèves Front de Mer, qui a récemment fait entendre la voix des quartiers populaires dans les luttes écologistes, notamment à Mediapart, à Reporter, en collaborant aussi avec Greenpeace. Donc bienvenue, bonsoir. Merci. Est-ce que vous pourriez d'abord peut-être plus simplement présenter l'association, son historique, ses buts et aussi peut-être le réseau Classe Jean Rasse que vous animez ?
Alors il y a deux niveaux en fait sur le Front de Mer. Il y a d'abord un niveau local. C'est d'abord en fait un collectif de mamans, de femmes à Bagnolet. Qui se sont organisés, on y reviendra, sur une lutte très concrète qui est la cantine. Voilà, et je préciserai tout à l'heure. Donc c'est d'abord une action locale avant d'être un syndicat de parents national, donc qui est le Front de Mer. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est important de dire que voilà, ce que nous faisons au Front de Mer, en fait, part vraiment de problèmes, de questions, d'urgences très concrètes et très locales. Et donc le Front de Mer, c'est devenu un syndicat de parents qui s'intéresse à tout ce qui concerne l'éducation des enfants, et notamment des enfants des quartiers populaires, et oui, issus d'immigration postcoloniale. Donc tout ce qui concerne l'éducation. Donc c'est parti, c'est vrai, de questions de cantine, et puis finalement, bon, de fait, on a été amené à se positionner sur l'ensemble des questions, l'ensemble des enjeux qui concernaient nos gamins. Et alors, pourquoi mère, Front de Mer ? Parce qu'on nous dit souvent, mais pourquoi il n'y a pas les pères ? C'est pas bien, ça réduit
les femmes.
Il n'y a pas les
femmes sans enfants ?
Oui, complètement. Alors, bon, c'est pour ça que je disais, ça concerne bien nos enfants qui vont à l'école, etc. Donc ça, à la limite, on ne nous fait pas trop le reproche de voir que ça s'appelle front de mer, quoi, puisque ça concerne l'école. Non, c'est plutôt pourquoi il n'y a pas les pères. Et c'est pas bien parce que ça tend à déresponsabiliser les pères. En plus, ça réduit les femmes à la maternité.
Vous n'avez pas eu, c'est du sexisme inversé, par exemple?
Non. Alors ça, ouais, de la part de deux, trois... Tocard. Mais non, la plupart du temps, c'est une question sincère en plus. D'accord. Pourquoi pas les pères? Alors, il se trouve qu'il y a les pères aussi, et il se trouve qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants au sein du front de mer, notamment des enseignants, des enseignantes, donc des papas, des mamans. Alors, mais par contre, ça s'appelle front de mer, et c'est politique, c'est pour... insister, valoriser le rôle des mères, en fait, qui a tendance à être dévalorisé. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de dire les mères qui s'occupent des enfants et qui font la cuisine et qui changent les couches. Là, il s'agit de dire les mères qui ont un pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir de s'occuper, de gérer, de décider pour tout ce qui concerne l'éducation et la transmission de leurs enfants, pouvoir dont elles ont été dépossédées, en tout cas qui leur a été confisqué. Enfin, nous, on s'en est rendu compte au moment de la cantine, c'est-à-dire qu'on nous renvoyait le fait que on n'avait rien à dire, en fait, sur ce que mangeaient nos enfants à midi. C'est parti de là, donc ce sentiment d'être dépossédé, en fait, alors que c'était gamin, quoi, c'est tu les as fait, tu les as portés, allaités, etc. Et puis tout à coup, on te dit que c'est pas toi qui décide. Et puis alors, il y a une particularité aussi pour les mères des quartiers populaires, c'est qu'on a tendance à dire qu'elles sont démissionnaires, qu'elles sont laxistes, qu'elles font n'importe quoi, et que c'est pour ça que leurs gamins, d'ailleurs, brûlent des voitures. Enfin, il y a toute cette représentation néocoloniale, raciste et sexiste autour des mères des quartiers populaires. Donc voilà, donc si on s'appelle front de mer, c'est politique, c'est pour dans une perspective et féministe et antiraciste aussi. Donc voilà, et puis alors Réseau Clash en Race, c'est vrai que c'est une autre organisation que j'ai créée, mais voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Réseau Clash en Race, c'est lié à mon métier. Alors moi, je suis politologue et consultante, et j'ai été amenée à faire des rapports, des évaluations, etc., notamment pour ce qui concerne des politiques publiques en direction des quartiers populaires et des femmes habitants. Alors on n'appelle pas ça quartier populaire, hein, en politique publique, on appelle ça quartier défavorisé, quartier politique de la
sensible.
Ville,
sensible,
etc. Donc, et donc j'ai été amenée à voir un peu en fait quelles étaient ces politiques publiques, donc j'ai été amenée à constater que c'était quand même les politiques publiques les plus graves qui soient, et qu'en fait au nom de l'aide à ces femmes, au nom de la lutte contre les discriminations parfois, en fait on mène une politique particulièrement raciste et néocoloniale dans les quartiers populaires. Et donc, à politique, tu peux faire une contre-politique. Donc, à politique publique, une contre-politique publique. Donc, le Réseau Clash en Race, c'est ça. C'est, en fait, une organisation qui met en lien des acteurs institutionnels, ça, j'assume de le dire, institutionnels, parce qu'il y a un rapport de force aussi au sein des institutions, et il faut pouvoir y être, universitaire, militant, associatif, professionnel. Et voilà, c'est un réseau qui met en lien ces différents acteurs pour essayer de s'inscrire dans un rapport de force politique et proposer, travailler à une politique en direction des quartiers et des femmes qui habitent les quartiers en particulier, des projets, un travail qui soit féministe, antiraciste. Donc voilà, pour le réseau Clash en Race. Alors ce qui est bien quand même, enfin, d'être sur les deux, c'est que ça me permet au sein du réseau Clash en Race de récupérer des méthodologies, des outils intersectionnels notamment, pour le front de mer. Et qu'on travaille notamment sur Bagnolet-Montreuil, en fait, au niveau local. Donc ça s'articule tout ça, en fait, le local, le national avec le front de mer, et puis l'outil Réseau Clash en Race. Mais voilà, c'est des espaces qui sont différents.
Ok, oui, j'ai oublié de mentionner que vous êtes dans votre lutte, vous êtes à Bagnolet. Ouais. Et donc cette lutte que vous évoquiez sur la cantine, c'était une lutte donc pour l'option végétarienne à la cantine. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette lutte, et puis surtout de la façon dont elle a été reçue par les institutions, les politiques, les médias? A-t-elle été perçue comme une lutte écologiste, et pourquoi?
Alors absolument pas. Alors au départ, c'est pas une lutte écologiste, hein, et au départ, on ne demande pas comme ça, de manière idéologique, que l'alternative végétarienne à la cantine. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Bon, alors moi, il se trouve que je suis végétarienne et que je m'intéressais déjà à cette question-là avant d'avoir des enfants. Mais c'est vrai que ça part de quelque chose de très précis. C'est j'inscris ma fille en petite section à la maternelle, et en fait, je reçois donc la petite fiche d'inscription. On me demande si ma fille mange du porc ou pas, et je ne vois qu'il y a pas. Enfin, je vois vois qu'il n'y a pas d'autre question. Est-ce qu'elle mange de la viande ou pas? Donc je me pose la question, si elle ne mange pas de viande, comment on fait? Et là, on me dit, vous êtes la seule à poser la question. Il faut qu'elle goûte à tout. C'est la République ici, en France, donc il faut qu'elle mange de la viande. C'est républicain, tout ça. Puis il y a la laïcité, etc. etc. Bon. À problème, il y a forcément des solutions. Et comme je suis militante par ailleurs, de manière très naturelle, je vais voir la FCPE, qui est donc une fédération de parents d'élèves, en tout cas dans l'école que fréquentait ma fille. Et donc je me mets parents délégués FCPE, avec les autres camarades de parents. Et donc je leur soumets cette idée que il faut que tous les enfants puissent manger à la cantine, dont ma fille, parce qu'au départ c'est vraiment ça. Moi je m'invente pas une vie politique idéologique, Moi c'est vraiment d'abord mes gosses, Enfin là en l'occurrence. Et donc aux autres parents de la FCPE, je leur dis est-ce qu'on peut pas réfléchir à une solution pour que tous les enfants puissent manger à leur faim, qu'ils aient tous un repas équilibré, parce que là, il se trouve que j'ai vu avec d'autres parents, il y a vraiment des enfants, soit qui ne peuvent pas aller à la cantine, donc se sociabiliser autour d'un... Enfin, moi, ça, j'y crois vraiment, Vraiment le côté...
Le repas, bien sûr.
Ouais, le repas du midi, parce que alors j'ai testé le fait d'aller prendre mes enfants à midi, faire des allers-retours, etc. Ils sont stressés, ça va pas du tout, Enfin, c'est vraiment pas... Quand on dit oui, mais alors, ça peut être un moment de qualité de récupérer vos enfants.
Non, c'est non. Pas une pause.
Alors, absolument pas, il n'y a pas le temps. Et puis même, tu prends ton enfant, des fois, tu arrives en retard, donc tu es obligé d'arracher ton enfant qui est avec ses potes. Tu reviens en retard, enfin bref, c'est vraiment pas... C'est ultra stressant. Et puis en plus, l'enfant comprend pas pourquoi il peut pas aller avec ses camarades. Et puis alors, par ailleurs, l'enfant qui va quand même en cantine, qui ne mange pas de viande, et qui voit son parent lui dire « mange pas de viande, tant pis, tu manges le reste », voir les animateurs, animatrices, les ATSEM, etc., lui dire « mais si, vas-y, goûte ». Enfin, l'enfant, du coup, se retrouve dans une position comme ça, d'être en conflit d'autorité, en conflit vraiment d'autorité et de loyauté. Donc voilà, donc c'est dire de manière très sincère aux autres parents, comment on peut essayer de trouver une solution. Il se trouve que moi, je connaissais une proposition de loi qui était proposée par un type de droite, c'est vraiment pas un mec révolutionnaire, il s'appelle Yves Jégo, c'était un député de l'UDI, donc droite, et qui avait fait une super proposition de loi à l'Assemblée nationale pour demander l'alternative végétarienne à la cantine. Super. Enfin, je veux dire, il avait pris tous les niveaux. Et vraiment dans un souci de justice sociale, d'équité, etc. Vraiment la proposition de loi pour un mec de droite. Et donc j'avais dit, il y a un truc... Et dans la mesure où je pense, c'était moi qui demandais, une femme arabe, musulmane, dans une ville assez gentrifiée, pourtant de gauche, il y a eu une levée de bouclier d'abord de la part de ces parents-là. Donc c'était même pas tout de suite les organisations de gauche, les institutions, c'est d'abord des parents.
Au sein du syndicat de parents d'élèves.
Au sein de la FCPE locale de l'école. Et ensuite, au sein de la FCPE de la ville, parce qu'après, alors du coup, j'ai vu que ça passait pas dans l'école de ma fille, je me suis dit, on va essayer au niveau de la ville, la FCPE de la ville, et là, pareil, ça passait toujours pas, c'est-à-dire qu'on me renvoyait au fur et à mesure, au communautarisme. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a émis l'hypothèse que peut-être ça pouvait être un enjeu écologiste. Non. Forcément, c'est parce que je voulais avancer masqué, c'est parce que je voulais imposer la charia à l'école, je vous assure que c'est vrai. C'est parce que il fallait pas se cacher derrière son petit doigt, que Daesh n'était pas loin. Etc. Enfin, j'ai eu droit à tout dès le début. J'ai eu l'expérience d'être ultra minoritaire dans un groupe majoritaire, qui ne voulait pas entendre parler de cette proposition qui était l'alternative végétarienne, y compris, je le dis, de la part de parents qui étaient par ailleurs végétariens. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui étaient végétariens et qui soupçonnaient que ça pouvait faire plaisir, je le dis cash, aux musulmans et qui ont dit non. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une ville gentrifiée. Voilà, rapport de force entre les parents dans une mise en concurrence des enfants, et je pense qu'il y a de ça, c'est comment on empêche en fait des enfants d'être considérés, d'être bien, d'être à l'aise, etc. Enfin, on se rend pas compte, faut vraiment l'expérimenter pour
vous pensez qu'ils projettent sur les rapports entre parents d'élèves ce qu'ils aimeraient voir se devenir projeter sur leur enfant.
Moi j'ai pu constater que des parents qui par ailleurs ont une sensibilité écologiste se battaient en réunion pour qu'il n'y ait pas alternative végétarienne. Alors, je précise pour les personnes peut-être qui connaissent pas bien cette question-là, l'alternative végétarienne, ça veut pas du tout dire qu'on veut imposer aux enfants de ne pas manger de viande.
C'est une alternative.
C'est bien une alternative, c'est-à-dire il y a le choix. Donc, toi, parent, si tu veux que ton enfant mange 4 fois sur 5 de la viande, et le cinquième jour, c'était du poisson. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps de la viande, en fait. Si tu veux qu'il mange tous les jours de la viande, alors que toutes les études internationales, y compris l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est, encore une fois, c'est pas le truc ultra révolutionnaire, qui te dit que c'est deux fois, trois fois maximum par semaine, tout repas confondu, y compris les repas chez la grand-mère, du week-end, du soir, etc. Mais que toi, tu veux que ton enfant il mange tous les jours de la viande, vas-y, c'est une alternative. Voilà. Mais n'empêche pas les parents qui, pour quelques raisons que ce soit, des raisons éthiques, religieuses, politiques, veut voir, ou alors
sanitaire.
Simplement, il veut pas voir son enfant manger tous les jours de la viande. Alors on sait que la viande à la cantine, c'est à plus de 80%, 90% d'origine industrielle. Bon, on connaît les conditions de vie et de mort des animaux. Voilà, c'est bourré d'antibiotiques, etc. Il y a toutes ces raisons-là. Et donc voilà, j'ai été confrontée à ça. Et puis ensuite, on a eu affaire aussi, et en même temps, aux organisations politiques, notamment de gauche, et ça je tiens à le dire, c'est des organisations de gauche qui sont censées avoir aussi une sensibilité écologiste, et qui ont considéré aussi que, alors au départ, qui ont cherché à invisibiliser, donc voilà, ça n'existe pas, et ensuite, qui ont diabolisé, donc de la même manière, en reprenant des étiquettes communautaristes, islamistes, en considérant que c'était pas possible, que parce qu'il se trouve qu'il y a des femmes qui portent le foulard dans le collectif. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, comme j'ai vu que ça passait pas au sein de la FCPE, je leur ai dit au revoir. Je leur ai dit au revoir. Non, je suis restée pour les questions de bande d'hygiène dans les toilettes, des choses comme ça. Donc ça, c'est bien la FCPE. Mais par contre, j'aurais dit que pour cet enjeu-là, j'allais avec d'autres parents, d'autres mamans notamment, parce que c'est elles. Hein, on n'a pas choisi d'être qu'entre femmes. Hein, c'est que de fait,
vous êtes.
Quand on s'occupe de l'éducation et surtout sur des trucs très concrets comme ça, bon, on s'est retrouvés entre mamans. Et puis qu'on allait créer un espace bienveillant où on allait vraiment poser la question de l'intérêt de l'enfant, en fait. Quel est l'intérêt de l'enfant? Est-ce que son intérêt, c'est pas de pouvoir manger un repas équilibré? Il se trouve qu'à Fontenay, par exemple, l'alternative végétarienne a été mise en place parce qu'ils se sont rendus compte à Fontenay-sous-Bois que 50% des enfants qui sortaient de la cantine n'avaient pas eu un repas équilibré. Qu'en fait, ils avaient faim en sortant de la cantine, quoi. Donc, vas-y pour tenir toute l'après-midi. Donc voilà. Donc on a créé cet espace-là, EEB, donc Ensemble pour les enfants de Bagnolet, et ensuite seulement Front de Mer. Et là, de la même manière, on a été attaqué par les organisations de gauche, donc ils nous ont ramenés au communautarisme, et c'est ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure, il y avait des femmes voilées dans le collectif, et forcément des femmes voilées, en fait leur métier c'est d'être voilées. Et donc leur métier c'est d'imposer l'islam, c'est de faire du prosélytisme, elles peuvent pas être végétariennes, véganes, déjà ça c'est une méconnaissance totale des quartiers populaires et des musulmans, parce qu'en fait, moi je sais, ils le savent pas, mais depuis des années, il y a ces questionnements autour de la viande dans la communauté musulmane, parce qu'il y a tout un enjeu entre licite, illicite, halal, pas halal, et halal ça veut pas simplement dire on égorge, ou non, il y a toute une question, une problématique écologiste sur cette question du halal, bon, que ces gens-là ne connaissent pas, qu'ils ne veulent pas connaître, donc
qu'ils ignorent et qu'ils invisibilisent,
voilà,
pas,
et qu'ils ne veulent pas connaître, vraiment, c'est-à-dire que même quand vous venez pour expliquer, etc., ils ne veulent pas l'entendre. Ok, pas de problème, mais il se trouve que dans le collectif, il y a des femmes qui portent le foulard et qui sont véganes, par exemple. Mais pour eux, c'était pas possible. Je veux dire, tu choisis dans ta vie, c'est soit tu portes le foulard, soit tu es végane, tu peux pas être les deux. Bon, voilà, avec des représentations très racistes. Mais c'est pas grave, nous on a continué. Et alors, une fois que ça a marché, parce que alors nous, il se trouve que vraiment, et ça je tiens vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que cette question écologiste, elle vient de quartiers populaires et elle vient de mamans noires, arabes, dont certaines sont voilées, et on éblouit le monde. Enfin, je le dis parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs écologistes qui pensent qu'ils ont bien réfléchi aux questions écolo et environnementales, et ensuite ils viennent essayer de sensibiliser les quartiers populaires qui n'y comprennent rien, ils sont trop occupés.
Dans une logique extrêmement descendante, voilà, avec beaucoup d'a priori sur d'ailleurs ce qui peut intéresser
voilà,
ou pas les gens.
Parce qu'évidemment, dans les quartiers, ce qui nous intéresse, c'est le chômage, c'est la galère, c'est la misère, et du coup, voilà, l'écologie, tout à coup, ça serait un luxe. Voilà, là, j'insiste pour dire que c'est nous qui avons imposé dans le débat public local, donc à Bagnolet, la question de l'alternative végétarienne à la cantine, et c'est même nous qui, aujourd'hui, faisons en sorte que cette question-là, donc de l'alternative végétarienne à la cantine, soit dans le débat public plus national, dans plein de villes en fait, donc déjà dans le 93, et puis dans plein de villes en France, posées, et voilà, vraiment du point de vue des quartiers populaires, parce qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Et donc, à partir du moment où ça commence à marcher, bon là, c'est récupération. C'est-à-dire, mais comme toutes les luttes des quartiers populaires, c'est-à-dire qu'au départ, on essaie d'invisibiliser, ensuite on diabolise, et quand on n'y arrive pas, bon, on essaie de récupérer. Et là, on est en pleine phase de récupération. Bon, après, on va pas se laisser faire, mais bon, Dieu sait que voilà, il y a pas mal d'organisations qui essaient de récupérer, pour être
récupérer, c'est-à-dire dire regardez une victoire écologiste à Bagnolet.
Ah non, pour dire par exemple la FCPE qui nous avait dit non à l'époque, et ça moi je peux le prouver, d'ailleurs j'ai fait un texte là-dessus, qui avait dit non, et c'est une histoire de musulmans, c'est une histoire de halal, etc., qui l'année dernière a organisé la même conférence que je leur avais proposée à l'époque et qu'ils ne voulaient pas, avec les mêmes partenaires, d'ailleurs qu'ils ont rappelé, des partenaires qu'on avait fait venir.
Un travail que vous aviez fait, donc.
Oui, alors Greenpeace, par exemple, qu'on a invité à Bagnolet, L214 qu'on a invité à Bagnolet, le médecin Jérôme Bernard Pelé qu'on a invité à Bagnolet, sur la base de notre lutte, hein. Et alors la FCPE 93 et FCPE les Lilas Bagnolet en particulier, a appelé ces partenaires-là. Donc, après nous avoir diabolisé, hein, après avoir dit tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas la cantine, nous, on n'est pas sur la question de la viande, c'est très bien. Voilà, les enfants pauvres doivent manger de la viande, sinon ils vont tomber dans les pommes. Enfin, toutes les vieilles caricatures vraiment bêtes et méchantes. Là, tout à coup, c'est réveillé avec cette sensibilité écolo et cette question de l'alternative végétarienne, et a été voir nos partenaires, mais pas nous. C'est-à-dire que voilà, on va aller chercher Greenpeace, etc. Mais par contre, nous, on ne nous invite pas. C'est la moindre des choses quand même, c'est au moins d'inviter EEB. Là, on ne nous invite pas. Et par contre, on invite une association des Lilas et qui a un autre profil sociologique. Enfin, moi, je suis pour qu'on travaille tous et toutes sur cette question-là. Mais tout à coup, c'était une association plutôt classe moyenne supérieure blanche qui, d'ailleurs, ne demandait pas l'alternative végétarienne, qui, par exemple, travaille sur tout ce qui est bio. Bon, voilà, nous, on n'a jamais été vraiment sur ce qui était bio, parce qu'on trouve que c'est pas l'enjeu central, c'est pas le bio, en fait. Parce que déjà, le bio, il faut voir, hein, dans les cantines, quand ils proposent du bio, souvent, c'est du bio industriel. Bon, je vois pas trop en quoi on est sorti du problème. Mais bon, en tout cas, et qui, notamment, demandait de la viande bio.
Qui n'était pas du végétarisme.
Voilà, et donc c'était pas pour une baisse de la consommation de viande, c'était vraiment pour que cette viande soit de meilleure qualité. Bon voilà, nous on est quand même pour que, à travers l'alternative végétarienne, ben, il y a une sensibilisation des enfants à consommer moins de viande, quoi, bio ou pas bio, quoi.
Oui, et puis voilà. Autrement. Non, je trouve ça très intéressant, cette idée que voilà, ces espèces de préjugés, hein, qu'on va avoir sur les quartiers populaires, l'écologie c'est un luxe pour eux, cette invisibilisation des luttes. C'est intéressant parce que ça fait comme si le discours écologique était une forme de privilège. Et j'ai pu observer ça, moi, dans la lutte avec les bifins et les bifines, qui sont les récupérateurs de rue, qui revendent ce qu'ils trouvent dans les poubelles, etc. Et quand j'ai intégré une association, Améliore, en l'occurrence, qui les aide, enfin, qui organise des marchés autorisés pour les bifins, pour qu'ils puissent sortir qu'ils puissent avoir une autre alternative que la sauvette, la vente à la sauvette, eh bien, il y avait tout ce travail à faire avec les acteurs institutionnels et mairies pour dire regardez ce qu'ils font, c'est du réemploi. C'est la même chose que ce que vous promouvez dans vos recycleries, vos ressourceries qui sont finalement qui ont votre accord, mais c'est la même chose et c'est même eux qui l'ont inventé bien avant Emmaüs, etc. Et donc tout ce travail de montrer, reformuler pour en fait visibiliser la lutte comme une lutte écologiste que ces acteurs refusaient de voir. Ça a été pareil avec les gilets jaunes. On les a accusés d'être anti-écologistes alors qu'ils disaient on veut d'autres lois que la taxe carbone. Donc oui, j'ai vraiment l'impression que l'étiquette écologie est réservée à certaines luttes et à certains mouvements dont la sociologie, hein, comme vous l'avez dit, est plutôt blanche, classe moyenne supérieure, etc. Et qui, après, ce qu'on observe, hein, quand on traîne dans ces milieux, enfin, dans ces luttes, quand on les croise, c'est qu'eux-mêmes s'inquiètent de leur propre homogénéité sociale et se demandent comment faire pour toucher les autres. En tout cas, ouais. Officiellement.
Ouais, parce que ça, non, moi, j'y crois pas du tout à ça, à leur inquiétude. Parce qu'en réalité, pouvoir être considéré comme écologiste et voir sa lutte être qualifiée d'écologiste, en fait, c'est une lutte, déjà. Je veux dire, c'est tout pas parce fait. Que les gens n'ont pas compris ou qu'il faudrait les convaincre, etc. En fait, mais ça concerne la lutte écologiste, mais ça pourrait concerner toutes les luttes en réalité. C'est-à-dire que c'est une question de pouvoir et d'accès au pouvoir. C'est une question d'accès à la parole politique. Est-ce que oui ou non on est légitime à avoir une parole politique? C'est tout. Écologiste ou pas? Et donc, voilà, c'est ça qui se joue en réalité.
D'accord.
On veut nous empêcher d'avoir accès, et moi je parle vraiment des quartiers populaires en particulier et des personnes issues d'immigration postcoloniale, on veut nous empêcher d'avoir accès à la parole politique.
D'être des sujets politiques.
Voilà. Finalement. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a organisé notre première conférence avec Greenpeace et tout, parce qu'il se trouve que quand même, dans cette organisation, il y a quelque chose de spécifique, c'est qu'il y a une personne, bon, je le dis, moi, qui a quand même beaucoup de réseaux, voilà, militants. Donc féministes, antiracistes, écologistes, voilà, les réseaux politiques en général. Et donc, du coup, même si ça bloque au niveau local, c'était plus facile de faire venir des gens du national. Voilà. Donc j'ai fait venir effectivement des organisations nationales, quelques journalistes, etc., sur Bagnolet. Donc, et à un moment donné, voilà, ça crée un petit rapport de force politique. Bon, on a organisé notre première conférence, mais il fallait voir les acteurs locaux face à nous, mais ils étaient choqués de nous voir, nous, arabes, noirs, musulmanes, oser organiser une conférence sur l'alimentation. C'est-à-dire que c'est des gens quand même qui ont l'habitude de voir les femmes des quartiers faire à manger, quoi. C'est-à-dire que pour eux, bah, nous, on fait le mafé, on fait le couscous, quand messieurs et mesdames organise des conférences avec des médecins, avec des pédiatres, des écologistes, etc., sur l'alimentation. Donc tout à coup, nous, on passait, en fait, d'une catégorie à l'autre. On passait de la catégorie « je te fais à manger » à la catégorie « je réfléchis ».
Sujet politique.
Voilà, sujet, mais vraiment, sujet politique, voilà. Et donc, voilà, et ça s'inscrit dans la longue tradition du rapport des organisations, notamment de gauche, aux quartiers populaires. C'est-à-dire que les habitants des quartiers populaires, ils sont là pour voter pour eux, ils sont là pour fermer leur bouche, ils sont là pour suivre, quoi. Donc, de les voir.
C'est et servir, hein, dans ce que vous dites, c'est vraiment
la... manger.
C'est
vrai, sur les femmes. Il y a quelque chose, ouais, surtout les femmes. Il y a quelque chose autour de l'alimentation qui est vraiment très, très, très particulier. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, c'est une lutte. Je veux dire, c'est un rapport de force. Nous, et qui a duré des années. Enfin, aujourd'hui, on s'en sort à peu près, mais ça a duré des années. Ça, j'insiste, parce que voilà, on peut avoir l'impression que c'est vraiment un manque de communication, parce qu'on s'est pas bien entendu. Non, non. Nous, on sait très bien ce qui s'est passé. Nous, on sait que voilà, il y a eu une guerre. Alors, il y a une guerre qui a été menée pour empêcher des gens d'avoir accès, encore une fois, à la parole politique.
Très bien, merci. J'ai une autre question. Donc, au début des années 80, il y a des militants américains-américaines du comté de Warren qui ont forgé l'expression « racisme environnemental », hein, pour dénoncer, dans le cadre d'une lutte très concrète, très précise, là aussi, l'installation d'une décharge de déchets toxiques dans leur zone. Et ils et elles constataient que c'est toujours dans les zones pauvres ou noires, ou en général les deux, hein, que les activités polluantes sont installées aux États-Unis. Et c'était une lutte qui a d'ailleurs beaucoup été portée par les femmes. Et donc, selon Razmik Cheyon, hein, qui est un chercheur sur ce sujet, ce sont également les minorités raciales qui souffrent le plus des effets du dérèglement climatique et qui ont le moins accès à un espace de vie préservé, à un environnement sain. On peut aussi ajouter le problème de l'accès à une consommation saine, la précarité énergétique, etc. Donc tout cela constitue un ensemble d'injustices environnementales que le racisme systémique renforce. Est-ce que vous faites également ce constat sur ce territoire ? Est-ce que vous identifiez une somme de besoins sur votre territoire, des manières de lutter contre ces effets du racisme environnemental ?
Oui, complètement. Bon, déjà, commencer par dire que, et c'est ce que ce chercheur montre bien, que l'écologie, comme portée essentiellement par les classes supérieures blanches, c'est quand même particulier à la France, à certains pays occidentaux, etc.
Plutôt européen, vous pensez ?
Plutôt européen, parce que par exemple, aux États-Unis, l'écologie est quand même beaucoup portée, bah là, dans l'exemple que vous avez donné, par des populations de classes très populaires, des populations noires, etc.
C'est notamment le cas en Amérique latine également.
Oui, en Amérique du Sud, etc. Donc voilà, donc en Afrique. Bon, évidemment, mais je veux dire, voilà, il y a des pays où l'écologie est portée par ceux qui sont les plus atteints, ceux qui souffrent le plus des problèmes
du capitalisme comme force impérialiste en tout cas, qui prend le territoire.
Voilà, donc en France, c'est quand même particulier de voir que ceux qui sont le plus victimes en fait des dégâts, notamment environnementaux, etc., sont les personnes qui sont les moins présentes dans la parole politique et l'organisation politique concernant ces sujets. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, je vais encore une fois repartir sur vraiment quelque chose de très concret, très local que je connais bien. Je vais pas partir sur des grandes théories. À Bagnolet, par exemple, il se trouve que on a une ville comme quand même dans pas mal de villes populaires en France, très gentrifiées, très ségrégées spatialement, y compris au niveau de l'offre d'alimentation. C'est-à-dire qu'on a des quartiers où, mais vraiment, tu as alors un kebab à côté, un kebab, un fast-food, un grec, un kebab. C'est-à-dire que la seule offre en termes d'alimentation, on va dire, de type restaurant, en fait, c'est de la malbouffe. Mmh. Et puis, il faut voir. Hein. Enfin, bon, il faudrait peut-être préciser un petit peu, mais il faut voir voilà, ce que c'est, quel type de pommes de terre c'est, ces frites-là, la viande, enfin, bref. Donc, et on a quasiment que ça dans certains quartiers, alors que tout ce qui concerne une alimentation un peu plus saine, avec vraiment des enjeux écolo, etc., bon, bah, c'est dans des quartiers de classe moyenne supérieure, blancs, gentrifiés. Donc, l'offre, en fait, n'est pas la même. L'accès à l'information n'est pas le même, c'est-à-dire que, en fait, on nous dit de temps en temps dans les médias, attention, il y a des pesticides, il y a des antibiotiques, enfin, il y a des trucs, ça augmente le taux de cancer, le taux d'autisme chez les enfants, enfin, il y a une panique comme ça dans les populations des quartiers populaires, mais il n'y a pas d'informations précises, c'est-à-dire que tu ne sais pas quoi acheter à tes enfants.
Pas d'accès
à l'information précise, c'est-à-dire déjà, tu ne sais pas quoi faire à manger, et tu ne sais pas quelles sont les alternatives, tu ne sais pas, t'as un budget qui est limité, parce qu'il y a ça aussi, quand on dit oui, mais alors il faut manger bio, il faut manger mieux, il faut manger plus sain,
à quel prix ?
Ben nous, on sait par exemple, et ça c'est des chiffres, et c'est l'État, c'est des chiffres de l'État, du ministère de l'Agriculture, qui montrent qu'en fait, manger sainement revient trois fois plus cher que de manger pas sainement, quoi. Trois fois plus cher. Parce que, alors, c'est les discours de certains écolos qui te disent non, mais ça coûte beaucoup moins cher d'acheter des fruits et des légumes, etc., que d'aller de manger au McDo, etc. Non, c'est faux. Ça coûte beaucoup moins cher de manger de la malbouffe. Et ça, voilà, ça a été prouvé, ça a été démontré par l'État. Donc, voilà. Donc, les accès sont pas les mêmes. Et donc, de fait, nos enfants mangent, enfin, pour parler d'alimentation, beaucoup moins bien que les enfants de classe moyenne et supérieure. Ça, c'est la première chose. Mais c'est une question de choix politique. C'est-à-dire que d'un quartier à l'autre, entre Bagnoles et Paris, par exemple, y compris 20e, on ne mange pas, on ne respire pas le même air. Et alors, je termine juste par un point, parce que je voudrais quand même finir là-dessus. Il y a un collège en centre-ville, un collège public, qui est dans un bâtiment historique, qui a vu sur du beau, qui a vu sur, voilà, ces châteaux de l'étang. Voilà. Eh bien, figurez-vous que la municipalité de Bagnolet, c'est pour ça que je dis il s'agit de choix politiques, hein, les enjeux écolos et puis les enjeux concernant les enfants, notre avenir, quoi. Ils ont décidé de virer les enfants du collège public, donc qui est en centre-ville face au château de l'Étang, pour le mettre à côté de l'autoroute. Voilà, et donc en termes de pollution, etc.
Un exemple bien parlant. Merci beaucoup, Fatima Wassak. Je suis désolée, on doit rendre l'antenne. Vous étiez sur Zoom Écologie, sur Fréquence Paris Pluriel. Merci beaucoup. Et on se retrouve le mois prochain.
Merci.
Salut.